Passion lire, la chronique littéraire de Gilles Labourois. Bonjour, voici quelques minutes de littérature que je partage avec vous. Quand je pense à tous les livres qu'il me reste à lire, j'ai la certitude d'être encore heureux, disait Jules Renard. Aujourd'hui, à l'ombre des jeunes filles en fleurs, à la recherche du temps perdu, de Marcel Proust. À l'ombre des jeunes filles en fleurs est le deuxième tome de À la recherche du temps perdu de Marcel Proust. Il est publié en 1919 et obtient cette année-là le prix Goncourt. Dans la première partie, Swann épousera Odette afin de légitimer Gilberte, la fille qu'il a eue d'elle. À la fin, du côté de chez Swann, le narrateur vivra des années plus tard ses premières expériences amoureuses avec Gilberte, mais le sentiment à son égard, tout comme leur relation, va se désagréger peu à peu jusqu'au jour où il partira pour le pays qui l'attire autant, le pays de Balbec. La deuxième partie des Jeunes filles en fleurs est consacrée à raconter le séjour que fait le narrateur avec sa grand-mère sur une plage de Normandie qu'il appelle Balbec et qui est en réalité Cabourg. Arrivé dans la contrée dont il a tant voulu voir les cathédrales, le narrateur s'installe avec sa grand-mère dans un hôtel pour un certain temps. Au début, sa vie est très solitaire. Ne connaissant personne, il ne parle quasiment à personne hormis sa grand-mère. Mais, de relation en relation, il finit par réussir et se lier d'amitié avec des jeunes filles qu'il observait depuis longtemps. Il tombe amoureux d'Albertine. Marcel Proust est né le 10 juillet 1871 à Paris, dans le 16e arrondissement, dans la maison de son grand-oncle maternel. Sa mère appartient à une famille de la grande bourgeoisie juive, dont certains membres jouent un rôle important dans l'histoire du judaïsme français, notamment Adolphe Crémieux, ancien ministre. Issu d'un milieu très cultivé, elle apporte à son fils une culture et une affection parfois envahissantes. Son père est professeur à la faculté de médecine de Paris et un grand hygiéniste, conseiller du gouvernement pour la lutte contre les épidémies. Marcel Proust est un enfant de santé fragile et il a toute sa vie eu de graves difficultés respiratoires causées par l'asthme. Il étudie ensuite à partir de 1882 au lycée Condorcet. Il redouble sa classe de 5e. Le premier amour d'enfance et d'adolescence de l'écrivain est Marie de Bénadarki, fille d'un diplomate polonais. Il cessa de voir Marie en 1887. Les premiers élans pour aimer ou se faire aimer par quelqu'un d'autre que sa mère avaient donc échoué. Proust devance l'appel sous les drapeaux et accomplit son service militaire en 1889-1890 à Orléans. La fortune familiale lui assure une existence facile et lui permet de fréquenter les salons de la grande bourgeoisie et de l'aristocratie du faubourg Saint-Germain et du faubourg Saint-Honoré, afin de recueillir des matériaux en vue de son œuvre littéraire. C'est en 1907 que Marcel Proust commence l'écriture de son grand œuvre « À la recherche du temps perdu », dont les 7 tomes sont publiés entre 1913, du côté de chez Swann, et 1927, c'est-à-dire en partie après sa mort. Pendant 15 années, Proust vit en reclus dans sa chambre au 2e étage du 102 boulevard Haussmann, où il a aménagé le 27 décembre 1906, après la mort de ses parents, et qu'il quittera en 1919. L'œuvre romanesque de Marcel Proust est une réflexion majeure sur le temps et la mémoire, en même temps qu'une réflexion sur l'amour et la jalousie, avec un sentiment de l'échec et du vide de l'existence qui colore en gris la vision proustienne où l'homosexualité tient une place importante. La recherche constitue également une vaste comédie humaine de plus de 200 personnages. Proust recrée des lieux, qu'il s'agisse des lieux de l'enfance ou des salons parisiens qui opposent les milieux aristocratiques et bourgeois, ces mondes étant évoqués d'une plume parfois acide, par un narrateur à la fois captivé et ironique. À la recherche du temps perdu est en partie un roman à clé et le tableau d'une époque. La marque de Proust est aussi dans son style, aux phrases souvent très longues qui suivent la spirale de la création en train de se faire, cherchant à atteindre une totalité de la réalité qui échappe toujours. Il meurt d'épuisement le samedi 18 novembre 1922, emporté par une bronchite mal soignée. Il est enterré au cimetière du Père-Lachaise, à Paris, division 85, dans le caveau familial. Odette avait maintenant dans son salon, au commencement de l'hiver, des chrysanthèmes énormes et d'une variété de couleurs comme Swann, jadis, n'eût pu en avoir chez elle. Mon admiration pour eux, quand j'allais faire à Madame Swann une de ces tristes visites où, de par mon chagrin, je lui retrouvais toute sa mystérieuse poésie de mère de cette Gilberte à qui elle dirait le lendemain « Ton ami m'a fait une visite », venait sans doute de ce que, rose pâle comme la soie Louis XV de ses fauteuils, blanc de neige comme sa robe de chambre en crêpe de Chine, ou d'un rouge métallique comme son samovar, il superposait à celle du salon une décoration supplémentaire, d'un coloris aussi riche, aussi raffiné, mais vivante et qui ne durerait que quelques jours. Mais j'étais touché parce que ces chrysanthèmes avaient moins d'éphémère que de relativement durable par rapport à ces tons, aussi rose et aussi cuivrée que le soleil couché exalte si somptueusement dans la brune des fins d'après-midi de novembre, et qu'après les avoir aperçus avant que j'entache, c'est Madame Swann, s'éteignant dans le ciel, je retrouvais prolongé, transposé dans la palette enflammée des fleurs. Comme des feux arrachés par un grand coloriste à l'instabilité de l'atmosphère et du soleil, afin qu'il vînt s'orner une demeure humaine, il s'invitait, ces chrysanthèmes, et malgré toute ma tristesse, à goûter avidément, pendant cette heure du thé, les plaisirs si courts de novembre dont il faisait flamboyer près de moi la splendeur intime et mystérieuse. À tout moment, tenant à la main la serviette raide et empesée où était écrit le nom de l'hôtel et avec laquelle je faisais d'inutiles efforts pour me sécher, je retournais près de la fenêtre, jetais encore un regard sur ce vaste cirque éblouissant et montagneux et sur les sommets neigeux de ces vagues en pierre d'émeraude, çà et là polies et translucides, lesquelles, avec une placide violence et un froncement léonin, laissaient s'accomplir et dévaler l'écroulement de leurs pentes auxquelles le soleil s'ajoutait. Un sourire sans visage. Fenêtre à laquelle je devais ensuite me mettre chaque matin comme au carreau d'une diligence dans laquelle on a dormi. Pouvoir, si pendant la nuit, s'est rapproché ou éloigné une chaîne désirée. Ici, ces collines de mer qui, avant de revenir vers vous en dansant, peuvent reculer si loin que souvent ce n'était qu'après une longue plaine sablonneuse que j'apercevais à une grande distance leur première ondulation, dans un lointain transparent, vaporeux et bleuâtre, comme ces glaciers qu'on voit au fond des tableaux des primitifs toscans. Quand le matin, le soleil venait de derrière l'autel, découvrant devant moi les grèves illuminées jusqu'au premier contrefort de la mer, il semblait m'en montrer un autre versant et m'engager à poursuivre, sur la route tournante de ses rayons, un voyage immobile et varié à travers les plus beaux sites du paysage accidenté des heures. C'était la chronique littéraire de Gilles Labouroir. À bientôt.